Nous allons reprendre les choses à partir de la dernière page des manuscrits autobiographiques de la petite Thérèse, qui cite le Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courons. Dans Attirez-moi, vous avez donc le désir d'entrer dans une vraie relation amoureuse avec le Christ, aimer Jésus. Nous courons le faire aimer. Une âme qui est enflammée de cet amour entraîne les autres. Hein, donc c'est le début du Cantique des Cantiques. Donc la petite Thérèse cite les paroles de la bien-aimée à son époux, « Attirez-moi, nous courons ». Qu'est-ce donc de demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur, si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi » ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et ne semble faire qu'un avec lui. Voilà, ça c'est le désir d'être brûlé du feu de l'amour passionné de Dieu en fait. Hein. C'est un amour passion qui naît du contact avec l'amour passion de Dieu, le fol éros de Dieu. Donc il y a l'éros de l'homme pour Dieu qui naît du contact avec l'éros de Dieu pour l'homme. Ça ne peut marcher que comme ça. Il y a un feu premier qui... et ça c'est une image qu'on trouve dans la mystique, hein, l'image du feu qui allume, le feu divin qui allume un feu nouveau dans le cœur de l'homme. Donc si vous avez compris l'image du fer qui doit se rapprocher de la flamme pour devenir lui-même lumineux, enflammé, rougeoyant, ça, il y a une autre image d'ailleurs, c'est l'image de la bûche jetée au feu, mais qui doit devenir elle-même rougeoyante, mais j'y reviendrai, c'est Saint Jean de la Croix qui l'utilise, mais à ce moment-là, vous comprenez l'importance de ce que dit saint Thomas d'Aquin à propos de la cause, des deux causes de la passion-amour. L'amour-passion est causé par la réalité elle-même, par sa puissance d'attraction, et c'est la raison pour laquelle, à la base, il faut cette réalité qui est Dieu pour exercer une attraction assez puissante pour sortir l'homme de lui-même. Il n'y a que Dieu qui puisse réaliser l'extase. Mais la deuxième cause de l'amour-passion, c'est la connaissance de la réalité, c'est-à-dire le contact. S'il n'y a pas le contact, le feu divin a beau brûler, le fer ne s'allume pas. Et donc, en réalité, si on veut être, pour venir reprendre une expression chère à Benoît XVI, fasciné par la beauté de Dieu, jusqu'à s'oublier soi-même totalement, en se laissant saisir, transporter, eh bien, il faut ce qu'on appelle la contemplation. Ça, c'est la raison pour laquelle Benoît XVI a dit une fois que la contemplation du Christ était la base de tout. Et nous avons dans la première lecture de ce jour une parole qui nous le confirme, qui nous dit que celui qui pêche ne l'a vu ni connu, le Christ. Autrement dit, si on le voyait, on ne pêcherait point. C'est-à-dire si on était dans une contemplation permanente de la beauté de Dieu, on serait dans un feu. Un amour brûlant pour lui, comme on dit. Et cet amour brûlant, comme je l'ai dit hier, inspirerait toute notre vie, notre manière d'agir, qui serait animée par l'amour. Il n'y a plus de place pour le péché. Donc celui qui voit Dieu ne pêche point. Alors, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, il suffit de penser toujours à Jésus. Il suffit. Il n'y a qu'à garder Jésus toujours présent au cœur et à l'esprit. Et puis, à ce moment-là, on passe au-dessus de toutes les tentations. On pourrait dire aussi, il suffit de prier sans cesse. Écoutez, Sainte Thérèse d'Avila, elle doit écrire, je suis dans le chemin de la perfection, le début du chemin de la perfection, chapitre 4. Elle écrit parce que ses sœurs lui ont demandé, de l'instruire sur l'oraison. Parce qu'à cette époque, c'est la grande question, c'est comment parvenir à la contemplation, à ne désirer que ça. C'est le carmélite réformé. Et Thérèse rappelle la règle primitive de notre ordre, dit que nous devons prier sans cesse. Ne négligeons rien pour remplir ce devoir le plus important de tous. Et alors c'est de l'oraison que vous m'avez prié de vous parler quelque peu. Et elle dit, oui, au fond, il n'y a que ça qui nous intéresse vraiment, c'est le but, c'est d'être enflammé de l'amour divin, tout ça. J'ai retrouvé quelque chose de semblable dans la fête de Saint-Basile et Saint-Grégoire de Nazianze, dans l'office des lectures, vous regardez, il se retrouve jeune et il ne désire qu'une chose, la sagesse, acquérir la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Saint-Basile et Saint-Grégoire de Nazianze, jeune, il ne cherchait que ça. Contemplation. Et alors, on pourrait conclure que ben voilà, il va falloir prier davantage pendant cette année et que ça ira mieux. En fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Sainte Thérèse d'Avila, donc, elle a les sœurs qui sont, elles sont chauffées au rouge et elles ne demandent qu'une chose, la contemplation. Et qu'est-ce que dit Sainte Thérèse d'Avila? Avant de parler de l'intérieur, c'est-à-dire de l'oraison elle-même, je veux signaler certaines choses qui sont nécessaires à ceux qui marchent sur ce chemin de l'oraison. Et calmez-vous, attention. Il y a des... C'est bien, la prière, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Elles sont même tellement nécessaires, ces choses que je vais vous dire, que l'on peut être avec elles très avancé dans les services de Dieu sans être contemplatif. Calmez-vous. Il y a des conditions, il y a des choses nécessaires que je vais vous expliquer. D'un autre côté, si on ne les possède pas, ces choses que je vais vous expliquer, on serait être très contemplatif. Et croire que l'on l'est cependant. Là, on retombe sur la question de l'illusion. Vous savez, il y a la dernière fois, les gens qui sont contemplatifs dans leur tête, à force de lire les écrits des mystiques, de penser aux choses saintes de Dieu, on s'exalte un peu, on éprouve des grands sentiments, on est très fervent, mais ce sont les mêmes qui, quelques années après, tombent dans des fautes graves ou quittent la vie religieuse. On peut croire qu'on l'est cependant, en quoi l'on se tromperait complètement. Voilà, elle est très claire, elle est très nette. Et de quoi elle veut leur parler? De quoi elle veut leur parler comme, condition nécessaire, sine qua non, d'une vraie vie contemplative? La première, c'est l'amour que nous devons avoir les unes pour les autres. Pas de rapport direct, immédiat avec la contemplation. La seconde, c'est le détachement de toutes les créatures. Et la troisième, la véritable humilité. Autrement dit, il ne suffit pas de prier, il faut travailler sur soi, travailler sur son cœur, exercer la charité fraternelle. Alors moi, j'ai trouvé que c'était pas mal, ces trois distinctions. Surtout que si vous voulez creuser, vous avez le chemin de la perfection qui vous attend. Mais en tout cas, il ne faut pas rater le moment où Thérèse dit à ses sœurs, attendez, vous voulez que je fasse un traité sur l'oraison? Ça va venir, mais je vais vous expliquer avant un petit peu comment on parvient à une véritable vie contemplative. Alors... Sainte Thérèse d'Avila elle n'est pas théologienne. Elle l'explique d'ailleurs. Elle dit, moi, je ne vais peut-être pas dire les choses dans l'ordre, mais je l'ai dit à partir de mon expérience, et puis en tant que femme, enfin, elle est consciente qu'elle a le sens des points concrets, qu'il y a des grands théologiens qui peut-être n'auront pas autant le sens des points concrets. Donc en fait, je pense que l'ordre qu'elle donne, c'est le plus concret, le plus pédagogique. D'abord, s'exercer à la charité fraternelle, après le détachement et après l'humilité. C'est du plus facile, enfin du plus concret et du plus immédiat à réaliser au plus difficile à vivre. En fait, le fond du problème, vous l'avez bien compris, c'est l'humilité. Si on reprend les choses d'une manière, dans un langage théologique, on va d'abord traiter... On va essayer d'abord de voir les deux derniers points. On parlera de la charité fraternelle après. Mais je voudrais d'abord expliquer de quelle manière les choses... qu'est-ce qui fait que c'est une condition nécessaire? Mais parce que la contemplation, c'est donc la vision de Dieu, celui qui l'a vu. Celui qui pêche ne l'a vu ni connu. La vision de Dieu, elle a une condition nécessaire. C'est la purification du cœur. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et la purification du cœur, ce n'est pas qu'une question de prière. Certes, il y a une certaine purification quotidienne du cœur qui se fait à chaque fois que je m'exerce à la prière, je tourne mon cœur vers Dieu, je peux le purifier, commencer par déposer tous mes attachements. Hein. Si j'ai des soucis, je commence par présenter à Dieu mes soucis, mes distractions. Il y a un exercice de purification du cœur avant tout temps de prière. On devrait même commencer par ça. Se dire qu'est-ce qui préoccupe mon cœur, qu'est-ce qui fait que je suis, en fait, que je risque de passer tout mon temps de prière avec le cœur loin, il m'honore des lèvres, mon cœur est loin, leur cœur est loin de moi, dit, se plaint le Seigneur. Donc, chaque exercice d'oraison devrait rentrer déjà dans cette logique-là, c'est-à-dire on peut être dans un contact réel avec Dieu que si le cœur est tourné vers lui. Enfin, la purification. L'aimer de tout son cœur, pas d'un cœur partagé. Et souvent, on refoule des choses qui nous inquiètent, qui nous préoccupent, parce qu'on veut être tourné vers Dieu, mais on ne prend pas le temps de lui offrir ce qui nous détourne de lui. On est bien d'accord. Donc, il y a un travail, ce travail-là de purification du cœur, c'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification. Écoutez l'Épître aux Hébreux, 12-14. Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est la charité fraternelle. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, on se sanctifie non pas pour se sentir quelqu'un de bien, non pas par perfectionnisme, mais on se sanctifie parce qu'on sait que c'est la condition pour voir le Seigneur, pour entrer dans ce contact. Le bienheureux, les cœurs purs. La sanctification, elle n'est pas un but en soi. La sainteté elle-même n'est pas un but en soi. Le but, c'est le contact avec le Seigneur. Je me souviens... d'avoir exprimé au cardinal Lustiger, j'étais tout jeune prêtre, lors d'un repas, mon désir de la sainteté, et il m'avait répondu à sa manière, quelquefois un peu brutale, un peu brusque, mais c'est pas la sainteté qu'on recherche, c'est Dieu. Oui, dans le moment présent, puisque Dieu fait tout concourir à notre sanctification. Manque simplement le fait de s'accorder à la sagesse divine. Le sage, c'est celui qui, qui participe à la sagesse divine. La sagesse divine, c'est cette sagesse qui guide la providence, enfin, c'est cette providence qui ne permet le mal que pour un bien plus grand. Simplement, on reviendra là-dessus, sur la question du face au mal, qui est la manière dont, à la fois, on doit accepter les réalités telles qu'elles sont, et en même temps, dans cette acceptation, trouver la force pour surmonter les difficultés, transformer ce qui doit être transformé, mais à partir d'une acceptation, à partir d'une confiance aveugle, de toute façon, Dieu ne permet le mal que pour le bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réformes à faire, mais à partir d'une confiance aveugle, voyez, qui fait qu'on ne se révolte pas, qu'on ne bute pas sur les choses. Pour moi, c'est ça le comble de la sagesse. Mais ça demanderait qu'on soit là aussi, et qu'on garde les yeux fixés sur à la fois sur le vrai but, et puis qu'on soit dans une foi, une espérance vigilante, permanente. C'est ici qu'on peut repenser à cette image d'Isaïe, hein, que celui qui espère le Seigneur déploie ses ailes comme un aigle et qu'il court sans se fatiguer parce qu'il bute sur rien. Là, j'avais à Paray le Monial l'image d'un planeur, le planeur qui en fait il plane en même temps, enfin il vole en même temps qu'il est soulevé par le vent contraire. C'est l'opposition. Enfin, on peut planer en profitant, enfin planer, s'élever vers Dieu, voyez, en profitant des obstacles. Sachant profiter des obstacles même pour s'élever plus haut. En attendant de pouvoir les vaincre. Alors, puisque nous n'avons pas la sagesse suffisante pour bien prendre les choses, et que souvent nous nous mettons en colère, nous révoltons, nous décourageons, nous sommes désespérés de notre avenir spirituel parce que vraiment tout va mal. On fait quoi? Ben, il faut penser que cette vie humaine dans laquelle on sait profiter de tout pour s'unir à Dieu. Jésus l'a vécu dans son humanité. Il a été homme comme nous et éprouvé en tout comme nous. Je veux dire que le chemin de sanctification, Jésus l'a tracé réellement. Donc on n'est pas sans un frère aîné, premier de cordée, pour nous montrer que c'est possible de vivre d'une vie d'amour sur terre. Et même d'aller jusqu'au sommet de l'amour. Et donc, je repense ici à Hébreux 12. Vous voyez, dans Hébreux 12, à un moment, il est question de fixer les yeux. Voilà. L'Épître aux Hébreux s'adresse à une communauté, vous savez, qui est soumise à bien des épreuves. Hein? Alors il dit, voilà, nous sommes enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau le péché qui nous assiège, pour courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur l'initiateur de notre foi, littéralement. C'est cela, l'initiateur de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa la famille, qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par les lassitude de vos âmes. La maladie du découragement, hein. Pour ne pas défaillir, songez au Christ, hein, qui a traversé l'épreuve et qui est assis à la droite du Père, parce que dans la souffrance, plutôt par la souffrance, il est allé jusqu'au sommet de l'amour. Donc, songez à Jésus crucifié et ressuscité, et élevé à la droite du Père. Se remettre devant Jésus lui-même. Pensez simplement à Jésus dans son cœur. Ça, on peut peut-être y arriver, à certains moments. Je ne dis pas qu'on puisse vivre comme les saints dans la... Comment dire, en gardant toujours, enfin comme les saints. Les saints eux-mêmes, ils ont des moments où ils ne gardent pas les yeux fixés sur Jésus, puisque sinon ils ne pécheraient pas sept fois le jour, puisque l'Écriture dit que le juste pêche sept fois le jour. Le juste pêche sept fois le jour parce qu'il ne garde pas cette vigilance. Mais disons que le saint, d'une manière habituelle, vit en gardant les yeux fixés sur Jésus, et pour ça, il peut le suivre sur ce chemin de sanctification. Et profiter de tout avec lui et par lui. Mais l'Épître aux Hébreux dit simplement « Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs. Songez. Songez à lui. » Dans les situations où on sent qu'on commence à se refermer sur soi dans la colère et qu'on s'en veut parce qu'on a raté tel truc et qu'on l'impression qu'à cause de nos bêtises, tout est gâché. Songez. Se remettre purement et simplement devant Jésus, dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. En fait, je suis en train de penser que si tout obstacle, si Dieu fait tout contribuer, même le mal, à notre sanctification, c'est parce que Jésus a assumé ce mal. Toutes les situations injustes, d'humiliation, tout ce poids que, et puis tout ce qu'on a à supporter sur cette terre, qui est lié au péché, à la justice, Jésus l'a assumé. Il l'a porté avec un amour plus fort que le mal, qui fait que de fait, le mal a pu être tourné en bien. C'est en gardant les yeux fixés sur Jésus, vainqueur, par sa passion, dans sa passion, par sa passion, et désormais assis à la droite du Père dans la gloire de l'amour, que nous pouvons, je dirais, trouver le courage et la force de dire que c'est pas possible qu'une situation nous empêche d'avancer. On peut toujours aller de l'avant en songeant à Jésus. C'est dans notre tête que la situation elle est décourageante ou qu'elle est sans issue. C'est dans notre tête seulement. Et c'est là que le démon intervient. Ils m'ont resté enfermés dans une vision, je disais hier, hein, dans cette vision où on a nos certitudes, où on a nos calculs, nos raisonnements. Ben oui, regardons la chose objectivement. Quand on commence à dire « regardons la chose objectivement », on est cuit. Et là, le pape François, il l'a dit aux évêques brésiliens. Il a dit « dans le juger, dans le voir juger agir », on s'est fait piéger parce qu'on a voulu un voir objectif. Un voir objectif. Il n'y a pas de voir objectif. On voit les choses dans la lumière de Jésus ou on les voit mal. Et là, on se fait prendre par la mentalité actuelle qui dit, ben voilà, on met les choses sur plan, là, on va analyser la situation. Non, on n'analyse rien du tout. Si on se met comme ça à vouloir mettre notre raison et notre capacité de jugement en avant, en disant, ben, on fait un constat de la situation. Non, il n'y a pas de constat de la situation. Il y a simplement des aveugles qui se rencontrent et qui se perdent dans leur raisonnement. Mais la vraie vérité des choses, elle ne peut être vue que dans la lumière de Jésus. C'est la sagesse qui doit nous faire voir les choses. C'est pas nos appréciations et comment on fait dans les entreprises. On fait un audit, on ne fait pas un audit d'une communauté, d'une vie communautaire, en disant voilà. Non, on est réaliste, mais dans une lumière, c'est-à-dire, on ne nie pas les choses, on est ouvert à la réalité, mais dans une lumière qui est déjà celle du Christ ressuscité. Mais ça n'empêche pas, il ne s'agit pas non plus, voyez, de tomber dans une sorte de spiritualisation. Ce serait l'autre danger inverse, c'est-à-dire au lieu de s'ouvrir à la réalité, d'écouter les uns les autres dans ce qu'ils témoignent et dans leurs souffrances, et tout ça, on commence tout de suite à vouloir, j'ai envie de dire, sublimer les choses, hein, en leur donnant un sens spirituel. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est moi qui donne un sens spirituel aux choses, c'est encore moi qui maîtrise les choses et qui mène le jeu. C'est Jésus qui, de l'intérieur, éclaire. Mais il éclaire sur le chemin et il nous fait voir le sens des choses uniquement si on regarde vraiment vers lui et qu'on renonce à nos points d'appui, je dirais, intellectuels, à notre manière de donner sens. Moi, je suis très gêné quand on dit aux gens qu'il faut que c'est l'homme qui crée le sens, qui donne sens aux choses. Le sens, il se reçoit. Et il se reçoit peu à peu. Il y a d'abord un premier mouvement qui est un mouvement d'acceptation de la réalité, dans la foi. Je reviendrai là-dessus, je n'ai pas la référence sur moi, mais dans le Concile, il est dit que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie, condition d'accueillir toute chose de la main de leur Père du Ciel par la foi. Première chose, la base de tout, c'est la foi. Dieu ne peut permettre le mal que pour un bien plus grand. Ça, c'est la foi qui me le dit. Jésus a tout assumé, tout traversé, pour que moi, je puisse tout traverser avec lui. La lumière sur le fruit final, c'est-à-dire sur le sens concret que l'épreuve a, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va produire en moi, à quoi ça va m'amener. La lumière, elle viendra qu'au bout de ce chemin de foi. Si on commence à dire, moi pour accepter les choses, j'ai besoin de comprendre, on est cuit. Si on commence à se réunir, comme disait Schoenborg, on se réunit pour discuter le problème. Non, on ne discute pas le problème. On entend, on écoute ce que le Seigneur nous dit à travers les événements. On accueille. Il prend l'exemple des actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il y a le problème, vous savez, des disciples de Jacques qui pensent que les païens doivent se faire circoncire et observer la loi de Moïse. Et puis il y a Paul de l'autre côté avec Barnabé. Et Schoenberg nous a remarqué, mais dans ce qu'on appelait le premier concile, qu'est-ce qu'il emporte finalement? Ils ne se mettent pas à dire, bon, écoutez, il y a un problème, on va en discuter entre nous. Non, ils écoutent le témoignage. Ils écoutent Paul qui raconte les merveilles de Dieu, ce que le Seigneur a fait. On s'écoute, on témoigne de la réalité, on dit, chacun dit ce qui lui est donné de voir de l'action de Dieu, et puis à partir de là, la lumière se fait, mais ils sont pas dit, bon voilà, on va analyser la situation, on prend tel point, et puis on met les choses cartes sur table, et puis on va en discuter. Mais ils se sont laissés éclairer par Dieu, parce que Dieu, le Seigneur, était en train de faire. Ça rejoint le mettre ensemble de la Vierge Marie. Elle gardait ces choses dans son cœur. Toutes ces choses dites, entendues, on les garde dans notre cœur. Puis la lumière se fait progressivement, les choses s'assemblant les unes aux autres. Hein, Marie gardait, elle écoutait, elle gardait. Mais pour écouter, il faut accueillir, pour accueillir, il faut recevoir de la main de Dieu dans la foi. L'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit, par la foi, dans le renoncement à toute maîtrise sur le réel. Puis après, la lumière se fait. Dans 2 Corinthiens 5, 15, il y a une parole que je médite, qui me touche. C'est Saint Paul dit que le Christ est mort pour nous afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans ce « nous ne vivions plus pour nous-mêmes », il y a le péché originel, la prison de notre moi, une vie enfermée en soi. Et dans le Christ est mort pour nous, c'est-à-dire il a fait le chemin de renoncement pour nous. Il nous a sortis de notre prison en vivant cette mort que nous étions incapables de vivre, cette mort à soi. Évidemment, Jésus n'avait pas de moi à crucifier, mais il a donné sa vie, il a perdu sa vie pour nous. Il s'est livré pour nous. Donc, par sa passion, il nous tire de la prison de notre moi. Et il nous rend capables d'un amour pur. Et nous vivions pour lui, et non plus pour nous-mêmes. Alors, je voudrais ici que nous réfléchissions à ce qui est l'essentiel de ce travail de sanctification. Quel est le chemin essentiellement de sanctification que Jésus nous a ouvert par sa passion ? Et qui fait que, en toute chose, nous pouvons suivre ce chemin de sanctification, en toutes circonstances. La première chose qui apparaît clairement dans l'Évangile, c'est quand Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre, entendons me suivre sur le chemin de l'amour, hein, d'un amour pur ». Il met tout de suite des conditions que nous connaissons bien, mais que nous pouvons entendre à nouveau. « Si quelqu'un vient à moi, sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix, ne vient pas derrière moi, ne peut être mon disciple. » Être disciple de Jésus, c'est vivre à sa suite d'un amour nouveau. C'est être dans cette relation amoureuse avec lui. On le suit parce qu'on l'aime et on se laisse entraîner par lui dans une mission qui est en définitive la mission de la rédemption. Et vous savez qu'il termine en disant « Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. » Ici, qu'est-ce qui est touché ? C'est la question de la cupidité, la possession. Dans le même évangile, en Luc 12, 15, hein, vous savez bien, Jésus dit « Gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens, ne dépend pas de ses biens. Hein, » C'est la parabole de l'homme qui avait fait une riche récolte, vous connaissez. Et donc, en fait... Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus sur le chemin de l'amour pur? Une des choses qui nous empêche de sortir de la prison de notre moi, c'est l'esprit de possession. L'esprit de possession, il se glisse dans tous les domaines. Saint Paul dit que la cupidité est une idolâtrie. Pape Benoît, il a parlé de l'idolâtrie de l'amour possessif, de l'idolâtrie du travail, de l'idolâtrie du savoir. Il y a toutes sortes de richesses, y compris des richesses spirituelles, au sens de, je dirais, de choses qu'on a expérimentées au niveau spirituel, que l'on garde précieusement. On peut s'approprier les dons de Dieu. On est toujours tenté sur les grâces reçues, dans le sens d'une appropriation. On peut tenter de s'approprier les lumières divines et les transformer en savoir, parce que le savoir c'est ça, c'est ce que l'on possède, l'idolâtrie du savoir. Enfin, l'esprit de possession, il se mêle dans tout, dans nos relations affectives évidemment, mais ça peut être un attachement bien bas, mais pourtant bien réel, à des biens matériels. Saint Jean de la Croix reprend l'image traditionnelle du fil à la patte. Il dit que l'oiseau, il peut être enchaîné par une lourde chaîne ou un petit fil, de toute façon, il ne peut pas s'envoler. C'est pour ça que celui qui ne renonce pas à tous ses biens, il n'y a pas d'exception. Là, on se dit, mais quand va-t-on y arriver? Ce vrai détachement des réalités créées, de ce qui n'est pas Dieu. L'idolâtrie du travail, c'est l'attachement aux œuvres. On y reviendra, mais vous avez vu le prix à payer par un Van Toan pour sortir de ça. Ça, l'esprit de possession, c'est tous les jours que nous avons besoin de le mortifier, d'être crucifié. Crucifier cet esprit le Seigneur, il fait les choses, il nous montre les choses les unes après les autres, il ne nous montre pas tout de suite tout ce à quoi on est attaché sans le savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une journée, il y a plein d'occasions. On est bien d'accord, hein, il y a plein d'occasions de poser des actes de renoncement à des choses auxquelles on est attaché. Plein d'occasions. La question, c'est de garder présent à ses yeux le fait que un de nos deux ennemis, parce que je vais en noter que deux principaux, c'est l'esprit de possession, et c'est là que se joue en profondeur notre sanctification, la possibilité de sortir de notre prison. Cet esprit de possession, il est lié à quoi? Il est lié directement à la perte de la confiance. Il s'oppose directement à la foi et l'espérance, mais il est lié à la non-foi. C'est-à-dire qu'en réalité, la conséquence immédiate du péché originel, c'est que l'homme, n'étant plus capable de s'abandonner comme un petit enfant dans les mains de son Père du ciel, eh bien, on le voit dans le récit de la Genèse, il a eu peur. Parce qu'on n'est pas fait pour s'appuyer sur nous-mêmes. On est fait pour s'appuyer sur Dieu. Et l'homme, en se recherchant lui-même, en se recentrant sur lui-même, forcément est ramené à s'appuyer sur lui-même. Et comme il n'arrive pas à s'appuyer sur lui-même en réalité, c'est un homme, on est tous angoissés au fond de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas, de vraie sécurité. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être sécurisés, mais il n'y a personne qui est vraiment sécurisé. Eh bien quoi, on amasse. On amasse. On veut des réserves. C'est la parabole de l'homme qui a fait une grande récolte. Maintenant, tu as quantité de biens en réserve. Mange, bois, fais la fête. T'es sécurisé. On recherche une sécurité en dehors de l'abandon à Dieu, en dehors de Dieu lui-même. Dans Jérémie 17, hein, malheur à l'homme qui se sécurise dans l'humain. Maudit soit l'homme qui se sécurise dans l'humain. Il ressemble à un chardon qui se dessèche dans le désert. La cupidité dessèche l'âme, dit l'Écriture. On en crève. Celui qui veut gagner sa vie comme ça la perd. Se sécuriser en autre chose que Dieu, s'éloigner complètement de la source. Parce que plus on met sa confiance en l'humain et moins on la met en Dieu. Donc l'esprit de possession nous détourne de la foi qui nous permet d'accueillir la sève vitale. Et l'Écriture dit que l'idolâtrie et le culte des idoles est la source de tous les maux, la cause de tous les maux. C'est dans le livre de la sagesse. Donc détachement, 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 détachement. En tout ce qui n'est pas Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a une autre piste que Jésus nous indique? Ce chemin de la, ce chemin de la sanctification sur le terrain de la mortification, donc de l'esprit de possession, ce chemin, Jésus l'a tracé clairement dans le dépouillement de la croix. Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. Donc la perte de tout appui, Jésus l'a vécu jusqu'au bout. Hein. Mais il y a une autre ligne dans l'Évangile. Là, ce que je vous dis, hein, Jésus, il revient souvent sur cette question du renoncement et tout ça. On a toutes ces paroles clairement en tête, mais il y a une autre ligne. Matthieu 18, je crois que c'est. Ça qui peut le plus parler, hein, la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Matthieu 18, 1 à 3, vous connaissez bien. Qui est le plus grand? Donc, le plus grand, c'est le plus grand dans l'amour. Il n'y a pas d'autre grandeur que celle de l'amour. Qui est le plus élevé dans l'amour? Réponse de Jésus. Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme un enfant, comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Tous les mystiques, Saint Thérèse d'Avila en tout cas, et Saint Jean de la Croix, ils disent explicitement, l'amour pur en nous est proportionné à l'humilité, à l'abaissement, se faire petit. Mais il faut bien comprendre, ici, dans quel sens pratiquement il faut avancer. Parce que si on dit simplement, là qu'il faut suivre un chemin d'humilité, ça reste peut-être un petit peu abstrait. Au sens où l'humilité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, c'est, je dirais, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir, de plus précieux. Et on peut se faire beaucoup d'illusions sur notre humilité. En tout cas, quand on cherche à s'humilier soi-même, généralement, c'est une forme d'orgueil. Hein? On est bien d'accord. L'exercice est très difficile à faire. Alors, il y a un exercice pratique, par contre, que Jésus met et propose aux apôtres dans un contexte assez semblable. C'est celui des fils de Zébédée qui demandent à être assis à la droite et à la gauche du Christ dans son royaume. Donc, ils demandent à être les plus grands dans l'amour, eux aussi. Et alors les 10 s'indignent, comme vous le savez. Hein? Et qu'est-ce que leur dit Jésus? Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, en maîtres, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Alors ici, pourquoi je dis que ici c'est plus concret? Celui qui voudra devenir grand, donc on est dans la même question, devenir grand dans l'amour, hein, qui est le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. Et juste avant, Jésus parle de ceux qui... des grands de ce monde qui font sentir leur pouvoir et qui dominent. Il n'y a pas que l'esprit de possession, il y a l'esprit de domination. Ce sont nos deux ennemis mortels. L'esprit de domination. Si je disais simplement, il faut mortifier son orgueil, mais ce n'est pas comme ça Jésus parle. Il parle plus concrètement ici. Il fait voir comment cet orgueil se vit dans le monde, par la domination. Voilà, l'esprit de domination, il est, j'ai envie de dire, presque plus subtil encore que l'esprit de possession. L'esprit de domination... prend des formes d'apparence, d'apparente humilité, enfin c'est énorme. L'esprit de domination, notre monde en est pénétré. Dans le catéchisme de l'Église catholique, à un moment il est question du moi, le moi possessif et dominateur. Je m'appuie à vrai dire sur cette expression. Le moi possessif et dominateur. Notre vie, elle s'est construite sur un moi possessif et dominateur. Tous. Pas d'exception. C'est la conséquence directe du péché originel. Et c'est la conséquence aussi de nos blessures mal vécues. Essayons de bien comprendre la situation. On est enfermés en nous-mêmes, incapables d'un amour pur, à cause d'un égocentrisme foncier. On est tourné vers soi, on est centré sur soi, on cherche à se complaire en soi, on s'est recherché soi-même plutôt que Dieu. Et la conséquence immédiate de ce détournement de notre cœur de Dieu vers soi, c'est le moi possessif et dominateur qui contamine, qui devient le moteur de beaucoup de nos actions. Donc ce soit l'amour lui-même qui soit moteur, c'est ce moi possessif et dominateur. On ne s'en rend pas compte. Parce qu'on fait les choses pour Dieu. On fait les choses par motif de charité, pour le bien des autres, évidemment, pour servir. Oui. Mais dans quel esprit? Bernadette Lemoine, elle attire par El Monial cet été. Bernadette Lemoine, vous la connaissez peut-être, c'est une personne qui au départ a beaucoup travaillé Vitose, mais qui s'est investie ensuite énormément avec Château Saint-Luc, puis les Fraternités Saint-Camille de l'Hélice, et dans tout ce qui était guérison intérieure, et puis qui s'est finalement spécialisée dans une des maladies qui se propage de plus en plus, les pervers narcissiques. Avec les pervers narcissiques, c'est les rois de la manipulation. Il y a 3 degrés dans la manipulation, et le 3e degré, c'est les pervers narcissiques, c'est the top. Elle considère que c'est 10% de la population. Je trouve que c'est un peu excessif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le narcissisme, c'est la maladie du XXIe siècle, et que ce narcissisme prend une forme de plus en plus pervers. Et là, on peut reconnaître l'action du démon qui se glisse. Le narcissisme, c'est une conséquence seconde du péché originel. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'une manière de dominer actuellement dans le monde, c'est la manipulation. Il y a plusieurs degrés, mais les gens qui manipulent, alors manipulent. Je te manipule, nous manipulons. Alors, l'homme, lui, spontanément, c'est le père Thomas qui faisait remarquer ça, l'homme, il cherche plutôt à dominer par la raison. Nous, les hommes. C'est-à-dire, on a une forme d'intelligence qui s'appuie davantage sur le raisonnement logique. Donc, je domine par la raison, je domine les situations par la raison, et c'est moi qui ai raison parce que je te montre que. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. L'homme domine par la raison. La femme, elle domine par la ruse plutôt. Elle est plus rusée. Elle saura dire un oui qui est un non, et quand il faut, qui est un oui. Enfin, elle saura passer au-dessus des obstacles et finalement peut s'avérer plus maligne que l'homme qui croit dominer par simplement le raisonnement logique. On voit souvent ça, hein. Les hommes qui se perdent dans des raisonnements et puis les femmes qui finalement. Mais tout ça, c'est des formes de domination. Tout ça, c'est l'ego qui cherche à s'affirmer et à mener son jeu à lui, quoi. Il y a des gens qui sont très doués pour séduire, pour être bien propres sur eux, bien présentables, et qui arrivent à mener leur vie comme ça. Ils ont des ascensions extraordinaires, mais sur base de quoi? En tout cas, moi, personnellement, je ne les envie pas. Ceux qui réussissent sur cette base-là. D'un moi possessif et dominateur, mais très poli, très polissé. Tout dans les règles, tout dans la diplomatie, tout dans la gentillesse, la charité, comme il faut. Mais derrière, il y a un énorme moi, tellement gros qu'il ne voit pas. C'est Pierre Thomas qui dit ça, tellement gros qu'on ne le voit pas. C'est le moi profond. Quel chemin que Jésus nous invite pour briser ce moi dominateur, qui fait qu'en définitive, on arrive à ses fins. On veut arriver à ses fins et on veut faire ce que l'on veut soi. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui veut devenir grand parmi vous, au contraire, sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier dans l'amour d'entre vous sera votre esclave. Ici, c'est très concret. Il indique le chemin de l'obéissance. Là, c'est pas facile à entendre, hein? Le chemin de l'obéissance pour briser le moi dominateur. le renoncement à sa volonté propre. Des occasions de renoncer à notre volonté propre dans une journée. Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a plein. Il y a tout ce qu'il faut. Surtout quand les choses marchent mal, enfin marchent mal à notre point de vue. Celui qui perd sa vie à cause de moi, en fait, ces renoncements à notre moi possessif et dominateur, ils ont un goût de mort. Parce qu'en réalité, on a toujours vécu comme ça. C'était notre vie, notre moteur. Gagner toujours plus, s'attacher les gens, plaire, trouver une position, arriver à suivre. Et on trouve goût à arriver à maîtriser et finalement arriver à ses fins malgré toutes les difficultés. On aime bien ça. Ça flatte notre ego et puis on aime bien le combat. Puis on y arrive et tout ça. Et on a l'impression de tenir sa destinée en main. En plus, tout est bien. Et on a toujours vécu comme ça, en fait, depuis qu'on a perdu la confiance en Dieu, c'est-à-dire depuis le péché originel. Et donc, en fait, il s'agit d'une vraie mort. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui perd sa vie, mais en grec, c'est lui qui perd son âme, c'est-à-dire son principe de vie. Ce qui est le moteur, l'animation, ce qui nous anime, cet esprit-là, l'esprit du monde aussi, on peut dire c'est l'esprit du monde. Et il faut qu'on rentre dans un autre esprit, qui est l'esprit de Jésus, l'esprit filial, dans la pauvreté et l'humilité des petits. Ben ça peut pas être facile, ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des résistances, là. C'est incroyable ce que la grâce veut faire, parce que c'est humainement absolument impossible de sortir de cette manière humaine de vivre. Tout le monde vit comme ça. On est contaminé par l'ambiance, encore plus maintenant avec un homme moderne qui s'est révolté contre Dieu. On est tous pris dans cet esprit-là, contaminé, influencé, tout ça. Et Jésus nous demande un chemin radicalement opposé, de le suivre sur un chemin radicalement opposé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? La sagesse, c'est de saisir toutes les occasions pour vivre une ascèse spirituelle, pour briser ce moi. Si on garde vraiment le désir au fond de son cœur de mourir à nous-mêmes, normalement, on devrait savoir profiter de quelques situations pour volontairement poser des actes de renoncement, normalement. Mais il faut reconnaître que cette mortification volontaire, en saisissant les occasions que Dieu nous offre, pas facile à vivre. Par contre, je trouve que ce qui est plus facile, et ça se rejoint, hein, c'est inséparable, c'est les croix qui s'imposent à nous. Vous voyez, les vraies croix. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ce moi possessif et dominateur. On le veut, il faudrait que chaque jour, on se mette dans l'idée qu'on est essentiellement là sur terre pour renoncer à nous-mêmes. D'abord, c'est le premier exercice, avant même de prier, on renonce à soi. Renonce à soi-même et porte sa croix. Heureusement, il y a la croix qui vient derrière. C'est-à-dire, en fait, ça va ensemble. Mais les croix, l'avantage des croix, c'est-à-dire des événements qui nous tombent dessus, c'est qu'on ne les a pas choisis du tout et qu'on n'a qu'une seule chose à faire, c'est à les accepter. Tout ce qui t'arrive, accepte-le, dit la Syracine. Surtout les humiliations. sur toutes les contradictions, sur tous les dépouillements, sur toutes les pertes. Je vous dis le Siracide, mais j'oublie de vous le citer. C'est le Siracide au chapitre 2. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur dans l'amour, si tu veux suivre Jésus, prépare-toi à l'épreuve. Il faudrait le faire chaque matin. Prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Regarde bien la fin que tu vises, la sanctification. Enfin, en vue d'une vraie relation d'amour avec ton Dieu. Arme-toi de courage. Littéralement, prépare ton cœur, fortifie-toi. Arme-toi de courage. On peut s'armer de courage le matin en se disant que tout concourra à notre bien. Ne te laisse pas entraîner, tourmenter au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Ça viendra plus tard, ça. Et c'est là qu'il dit, tout ce qui t'advient, accepte-le, reçois-le. Qu'est-ce qu'il rajoute ? Dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient. Car l'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Et donc, la réussite de notre vie ne va pas dépendre d'abord d'un rallongement de notre temps de prière dans la journée selon la case fixée, mais elle va dépendre de la manière dont nous aurons su profiter des croix. Donc ce que je vous propose pour terminer, c'est de demander au Seigneur la grâce de rentrer dans cette logique de la croix, pour reprendre une expression de Benoît XVI, dans la sagesse de la croix, de mettre notre espérance dans la croix, de savoir la reconnaître, tout ce qui t'arrive, accepte-le, d'arriver à rentrer dans cette foi totale que par sa croix, Jésus a transformé tout mal en bien, et qu'il nous ouvre la voie dans les surtout dans les contradictions de la vie, de l'amour pur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.